RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10 sur RCF Reims-Ardennes. C'est le dernier jour de la semaine, c'est le dernier 18-19 en région. On retrouve Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, le dernier 18-19 en région de la saison même, au-delà d'être le dernier de la semaine, ce vendredi soir, au programme de l'immobilier au match de foot, y a-t-il une solution pour les banlieues? C'est la question posée par Jacques Cohen dans la chronique d'actualité d'ici quelques secondes. Nous serons également ce soir avec Patrick Demuy, historien, qui reviendra sur le sens d'être pèlerin en 2023. Et ça tombe bien puisque l'on parlera d'un pèlerinage à Lourdes, celui de Cancer Espérance, l'association marnaise organise son pèlerinage en septembre. Daniel Machet, membre de l'association, nous en parlera. On fera une rencontre, un portrait, celui de Séverine Couvreur, qui est la nouvelle présidente depuis le 5 juillet de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Elle sera notre invitée. Vous le savez également, c'est l'été. On a envie de sortir de chez nous, de sortir de nos murs. Quelques escapades pour les mois de juillet-août au lac du Der. Tous les rendez-vous, ça sera juste après le journal régional de 18h30. Je ne suis pas seul, évidemment, pour cette dernière de la saison en région. Il nous accompagne jusqu'au bout du bout. Raphaël Feillot est avec nous. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Alexis.
Et on éteint bien les portables, on a entendu la petite sonnerie, mais vous inquiétez pas, faut avouer, à moitié pardonné. Raphaël, Luca Mastrolillo également est fidèle au poste. Bonsoir Luca.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
Pour cette dernière, on l'a dit, Jacques Cohen est avec nous par téléphone, comme tous les vendredis. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Et on va revenir sur une actualité qui a beaucoup secoué la planète France, j'allais dire, ces derniers jours. C'est évidemment les émeutes, les violences urbaines. Mais pour en parler, Jacques Cohen, vous aimeriez revenir déjà sur les plans banlieues, ce qui a été fait en France depuis presque 1977, finalement.
Oui, il y a eu plusieurs époques et un balancier entre considérer que ce sont les infrastructures qui étaient prioritaires, donc la construction. Il y a toujours de bonnes âmes dans le BTP qui sont disponibles pour récupérer de l'enrue, ce que Macron appelait un pognon de dingue, et du tissu social. Le tissu social, c'est bien sûr le tissu éducatif et scolaire, c'est surtout scolaire. Mais comme c'est justement là où c'est le plus difficile de faire du scolaire, on a fait beaucoup de parasocial. Mais le parasocial sans scolaire n'a pas beaucoup marché. Quant à l'immobilier, et bien évidemment, on a des tas d'exemples sur la planète de ce que crée un joli cadre de vie. Si les gens n'ont pas une jolie vie à mettre dedans, ça marche pas. Il y a même un exemple architectural très spectaculaire, ça a été la bidonvillisation, si j'ose dire, d'immeubles très chics construits en Algérie à la fin de la période française, lors des mythiques plans de Constantine et autres plans de développement, où on a fait de jolis bâtiments qui, après l'indépendance, sont devenus des quasi-bidonvilles en bouchant les terrasses avec des parpaings, etc., etc. Donc l'immobilier n'est qu'un morceau du problème, mais croire qu'on peut l'utiliser comme solution définitive, c'est un peu l'idée de l'ANRU, qui a consacré énormément d'argent à des infrastructures et à la réhabilitation, et non pas à des restructurations. Soit dit en passant d'ailleurs, il est très souvent beaucoup plus coûteux et imparfait comme résultat de réhabiliter des immeubles dont on modifie les fenêtres et les façades que de démolir et de reconstruire. Alors quand les immeubles qui ont été construits en fait, par exemple la Croix-Rouge pour 30 ans, qui n'ont jamais été prévus pour durer, sont délabrés de l'intérieur, se faire de belles façades ne sert à rien. Les circuits d'eau sont pas conformes pour ce qui est de leur salubrité. L'isolation thermique et phonique correspond aux vieilles bandes dessinées de Binet où on a un tonnerre au rez-de-chaussée quand on lâche une pelote d'épingle au dernier étage, etc., etc. Donc là aussi, il y a beaucoup d'illusions et de naïvetés qui ont été développées. Alors de l'autre côté, sur le tissu social, on a créé des zones franches, et comme toujours, les effets d'aubaine profitent à ceux qui savent se servir des aubaines, qui sont pas forcément les plus honnêtes. On a créé, selon les périodes, une police de proximité, ce qui là n'était pas forcément une mauvaise chose, mais qui demande un effort de longue haleine, et non pas des à-coups de président en président, on décide que ça sert à rien ou qu'il faut tout mettre là-dessus. Et puis il faut pas non plus simplement des naïvetés du genre, c'est en faisant jouer au foot, les flics et les gamins qu'on veut s'en sortir. Donc tout ça, il n'y a pas de solution par segment. Il faut des choses coordonnées. Il ne faut pas d'excès dans les différentes solutions. Ni d'ailleurs dans la partie répression, comme on verra si on a le temps tout à l'heure, ce qui a été fait ou ce qui pourrait être fait.
Si l'on fait une photographie de ces violences urbaines, vous, ce qui vous a davantage marqué, ce sont un petit peu les pillages commandos et la façon dont c'est banalisé tout cela aussi.
Les pillages commandos, oui, mais surtout les pillages pas commandos. Ce qui m'a frappé à Reims, comme signe de délabrement social, c'est que l'un des supermarchés avait été dévasté la veille au soir, et le matin, donc les vitrines étaient brisées, donc il était ouvert aux quatre vents. Il n'y avait ni vigile, ni police, parce qu'on avait décidé qu'il fallait apaiser, et tout le monde est venu se servir. C'est-à-dire le raisonnement que le supermarché, il est gratuit, puisqu'il est ouvert, on peut le piller. C'est une chose courante aux États-Unis, ça n'est jamais arrivé chez nous jusqu'à présent. Quand les pillages commandos sont une bande de petits voyous qui attaquent le bureau de tabac du coin, ce qui s'est passé par exemple à la chaise au plafond, on est dans du relativement classique. C'est des bandes de jeunes qui veulent démontrer qu'elles peuvent ramasser des choses et les revendre. Ce qui d'ailleurs doit être combattu de la façon la plus expéditive possible, parce qu'il faut montrer que c'est pas une solution. Il faut montrer aux autres jeunes que c'est pas une solution.
D'ailleurs, Jacques Cohen, puisque vous parlez des jeunes, vous pourrez peut-être y revenir un peu plus tard si vous le souhaitez, mais il y a aussi le profil assez jeune des émeutiers qui a été souligné durant cette période.
Oui, mais il faut le relativiser, parce que comme d'habitude, on établit les profils sur ceux qui se font arrêter. Et par définition, c'est ceux qui courent le moins vite, ou du moins qui courent le moins longtemps, qui sont le moins méfiants et qui se font surprendre. Et donc effectivement, les gamins de 14 ans se font plus facilement surprendre que des gamins plus âgés, j'allais dire plus expérimentés, qui ont entre 20 et 25 ans. Mais il est exact qu'il y a un gros problème de tranche d'âge. C'est-à-dire qu'il y a une démission scolaire constatée qui fait que des gamins de 13 ou 14 ans sont abandonnés à eux-mêmes, ils font ce qu'ils veulent dans la rue, ne respectent pas plus les consignes de leurs parents que celles des enseignants et qui trouvent facilement de l'argent parce que le trafic de drones comporte toute une économie et du travail des guetteurs, etc. etc. Donc là, on part d'emblée sur une situation défavorable qui est que le tissu social, c'est plus celui de la République, c'est celui du trafic de drogue. De même, les bagnoles. Vous vous rappelez que le début de cette histoire est une bagnole de luxe immatriculée en Pologne car il est maintenant archi-classique qu'il y a dans les quartiers pourris. Tout un parc de voitures de location louées en Pologne ou dans des pays de ce genre que les gens peuvent se repasser les allées autres parce que c'est en quelque sorte les bagnoles de service de l'économie de la drogue, que donc des gamins peuvent se retrouver à apprendre à conduire au risque et péril des gens qui croisent avec des voitures généralement puissantes et pour lesquelles on n'a développé aucun cadre réglementaire pour coincer ce genre de location longue durée avec passage de l'un à l'autre et donc une nouvelle situation de conduite automobile sans permis, bien avant l'âge, etc. etc. Donc ça, c'est un élément de réglementation administrative relativement simple de contrôler les locations étrangères qui se promènent chez nous, pour lesquelles rien n'a été fait en disant « Ah ben c'est à l'Europe, on peut rien faire ». C'est complètement faux. On peut très bien exiger les papiers d'identité du véritable locataire dans la voiture. On peut très bien immobiliser les véhicules qui ne sont pas conduits par le véritable loueur, qu'elles soient françaises ou étrangères, etc., etc. Là, ça fait partie d'un abandon des quartiers dont la crainte est qu'ils conduisent à une situation américaine. C'est-à-dire qu'ils règlent leur compte entre eux. C'est le cas à Marseille avec une quarantaine de morts pour l'instant par an, mais aux États-Unis c'est beaucoup plus. Et puis quand ils sortent, on tire. Car il faut bien rappeler que l'incident initial, la mort de ce gamin, serait passé aux États-Unis dans la plus libérale des cités chez les démocrates, comme totalement conforme aux règles. Le gars qui ne coupe pas le contact quand il est mis en joue, et dont la voiture redémarre ou si lui-même redémarre, là-bas il se prend une balle en toute légalité. Ce qui ne veut pas dire que ça soit une très bonne chose, mais ça montre le décalage.
Jacques Cohen, quelque part, dans la façon dont vous parliez, on voyait qu'il y avait une sorte d'organisation dans ces quartiers. Une question me vient, quelles sont les forces sociales organisées justement dans ces quartiers ?
Eh bien, ces quartiers ont plusieurs niveaux d'organisation. D'abord, ils ont une base économique qui est le trafic de drogue, il faut bien le dire. Ensuite, il y a le pillage, mais non pas le pillage d'un magasin en aigu, mais des bandes de voleurs. Il y a différentes communautés qui s'organisent comme elles peuvent pour des travaux légaux ou illégaux, et puis surtout pour des travaux en zone grise, c'est-à-dire pour du travail au noir. Quand on est avec des papiers pas très très convenables, tchétchènes ou géorgiens ou arméniens, pour prendre uniquement le Caucase, eh bien, on accepte des petits boulots qui sont plus ou moins déclarés, etc., etc. Et puis, il y a également la possibilité d'être impliqué dans des trafics qui ne sont pas d'aller voler, bien sûr, trois saucissons dans la cave, mais souvent des trafics de voitures ou des choses comme ça. Donc, il y a l'économie de la drogue et l'économie des trafics. Il y a un morcellement, une fragmentation communautariste qui fait que telle ou telle drogue ou tel trafic est contrôlé par telle ou telle communauté. Même l'Union, le journal du coin, notait que lors du pillage dont je vous parlais du supermarché le lendemain, personne n'a touché au commerce tenu par des Tchétchènes qui, eux, avaient probablement décidé que quiconque franchirait le seuil, autrement qu'avec l'intention d'acheter, aurait de grosses misères. pourrait prendre quand même un aspect qui est l'autre force sociale, qui est les différents courants islamiques, et en particulier les frères musulmans, pour ce qui est de tout ce qui structure la communauté turque, par exemple, ainsi que les représentations, si on peut dire, en France, de différents pays du Maghreb. C'est aussi un problème, parce que les frères musulmans ont une logique simple, si l'on peut dire. Il faut que les structures sociales de la République disparaissent pour que les leurs prennent la place. Et donc, on peut très bien pour cela utiliser l'agitation d'excités qui ne sont pas leurs courants, et au contraire, qu'ils le mettront au pas. Mais justement, comme toute mafia, ils procurent un service social, c'est-à-dire qu'ils mettent au pas et ils remplacent le pouvoir de l'État vis-à-vis de la population qui, à ce moment-là, adhère et se soumet à ces mafias. C'est le cas des frères musulmans qui, peu à peu, tissent leur toile dans ces quartiers, ce qui aboutit à une superstructure complètement distincte de celle de la République, laquelle part en miettes.
Eh bien, merci, professeur, de nous avoir éclairé à l'intérieur de cette chronique. jhmcohen.com, c'est votre blog pour en savoir plus. À très bientôt.
À bientôt et bonnes vacances, si j'ai bien compris.
Bonnes vacances, effectivement, très bel été.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et pour la dernière de l'année, en région, exceptionnellement, nous ne retrouvons pas Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, ce vendredi, retenu par d'autres obligations, mais nous allons évoquer le sens des pèlerinages et celui d'être pèlerin avec l'historien Patrick Demuy qui s'entretient avec Jean-Pierre Benoît.
Patrick Demuy, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Période d'été, période de vacances, mais aussi période où on parle beaucoup de pèlerinage. On parle de Lourdes, on parle bien sûr de Compostelle, on parle de Jérusalem. Mais au fond, Patrick Demuy, qu'est-ce que c'est qu'un pèlerin ?
Le réflexe, c'est toujours de prendre un dictionnaire étymologique. Mais qu'est-ce qu'un pèlerin ? Alors, un pèlerin chez nous, un pilgrim en Allemagne, un pilgrim chez nos amis anglais, un pellegrino en Italie, peregrinus en latin. Alors, étymologiquement, c'est celui qui est en dehors de la guerre, ou la gère, comme vous voudrez, c'est-à-dire le champ, mais au sens du territoire, au sens de la cité. C'est celui qui n'est plus dans son territoire familier, c'est un étranger, c'est un exilé, c'est celui qui s'est coupé de la protection que lui apporte sa famille, sa communauté, pour se mettre en route, alors se mettre en route vers un sanctuaire, mais ça c'est vrai, de bien des religions, d'ailleurs les chrétiens ne sont pas les seuls, à entreprendre ces voyages dans un esprit religieux, mais dans le vocabulaire de la liturgie, de la tradition chrétienne, nous sommes tous des pèlerins aussi, n'est-ce pas ? Nous faisons un pèlerinage sur terre en attendant d'arriver au terme qui est la patrie céleste, et quand nous chantons le Salve Regina, n'est-ce pas ? Nobis post hoc exilium ostende, on demande à la Vierge Marie de nous montrer après cet exil sur terre, Christ qu'elle a mis au monde. Alors, nous sommes tous des pèlerins, oui, mais il y a des pèlerins tout de même qui n'hésitent pas à faire des centaines, voire des milliers de kilomètres. Dans la tradition, le premier pèlerinage que l'on rencontre, évidemment, c'est le pèlerinage de Jérusalem. Le désir de se faire pèlerin à la suite du Christ, qui lui-même n'avait pas une pierre où déposer sa tête, et d'aller faire mémoire de ce Christ incarné dans la terre où il a vécu. Alors, il a fallu attendre la tolérance instaurée par l'empereur Constantin au début du IVe siècle pour que l'on trouve vraiment trace de pèlerinage à Jérusalem, quand le christianisme est devenu une religion tolérée avant de devenir la religion de l'Empire. Je vous parle de Constantin parce que sa mère, Sainte Hélène, a joué un rôle très important. D'après la tradition, au concile de Nicée de 325, l'évêque de Jérusalem, qui s'appelait Macarius, a rencontré l'impératrice et lui a fait part de la situation de la ville où les monuments païens avaient pris la place des lieux marqués par la rédemption et qu'il était nécessaire de dégager des espaces où les pèlerins, justement, désormais pourraient prier. Et on doit à cette Hélène d'avoir entrepris des travaux de restauration ou de construction, véritablement, soit à Bethléem, dans la grotte de la Nativité, sur le mont des Oliviers, et surtout sur le tombeau creusé dans la roche qui est à Jérusalem et qui avait été recouvert par un temple païen. Et on attribue à Sainte Hélène l'invention, c'est-à-dire la découverte de la croix du Christ et des croix des larrons. Et Constantin, faisant sienne la découverte de sa mère, a fait entreprendre la construction d'une grande basilique de la résurrection, l'Anastasie, au fond notre Saint-Sépulcre, bon, qui a subi bien des difficultés depuis, mais qui est toujours présent, qui est toujours évidemment très vénéré par les pèlerins qui vont à Jérusalem, et on voit se multiplier les pèlerinages à ce moment-là, dès le IVe siècle, et aujourd'hui, la Terre Sainte est encore, bien sûr, une destination privilégiée pour les fidèles.
Patrick Demuy, dans le pèlerinage, il y a le but à atteindre, Jérusalem, ou Saint-Jacques, ou Lourdes, etc. Mais il y a le chemin aussi, parfois, qu'on fait ensemble, et ce chemin, il est très important.
Et c'est un chemin que l'on fait avec soi-même, avec sa conscience, parce que, bon, certes, on se dirige vers un lieu, ça peut prendre beaucoup de temps, et on y va chercher une grâce, ou on y va rendre grâce pour un bienfait obtenu, mais ce qui compte effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est le cheminement qui permet un retour sur soi-même, ou des rencontres qui peuvent être aussi toujours très très fécondes. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de pèlerins aujourd'hui, que ce soit vers Compostelle ou vers Jérusalem. Nous l'évoquions dans une autre émission, on n'est pas loin de 500 000 pèlerins homologués à Compostelle, c'est absolument incroyable. Alors, il n'y a pas 500 000 personnes totalement dévotes, et il y a aussi des randonneurs, mais selon un adage, on part randonneur et on revient pèlerin. C'est-à-dire qu'on n'est pas indemne de la pèlerinage. C'est le moment où, émerveillé par les beautés de la nature, interpellé par les rencontres que l'on peut faire, et surtout dans l'isolement, dans le silence qui permet de faire un retour sur soi-même, bien on fait vraiment une expérience de vie.
Il faut dire aussi, Patrick Demuy, je vais bien sûr raccourcir les distances et ne pas évoquer Jérusalem, mais parfois quand dans un diocèse on fait des pèlerinages, on essaye de trouver des lieux qui sont en connexion avec l'Évangile et puis la Terre Sainte. Par exemple, on va dire, on va aller sur la montagne, du côté de Saint-Valfroid. On va aller, l'année prochaine, on va aller sur le lac. Alors on va choisir Béron ou je ne sais où. On aime bien aussi s'identifier à des lieux de
tout
l'Histoire Sainte.
Il y a des lieux que j'appellerais de substitution. Il existe aussi, comme vous le savez, un certain nombre de sanctuaires qui ont repris le plan même du Saint-Sépulcre pour proposer sorte de succédané du Saint-Sépulcre. Et effectivement, il y a des lieux, et nous connaissons tous les grottes de Lourdes qui sont proposées, reconstituées dans certains endroits. C'est une sorte de pèlerinage miniature qui s'offre à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller trop loin. Mais la démarche est la même. Je pense que les grâces obtenues par les uns et par les autres sont tout à fait comparables à partir du moment où tout cela se fait dans la grande sincérité.
Un peu comme les moines dont vous nous avez souvent parlé, Patrick Demuy, qui ont installé leur monastère dans des lieux quand même assez exceptionnels. On a l'impression que des lieux de pèlerinage, c'est quand même sur des montagnes. On pense par exemple à Notre-Dame de la Salette. On peut penser à d'autres pèlerinages qui sont quand même dans des sites extrêmement grandiose.
Oui. Ben, ce sont des lieux qui nous rapprochent du ciel, de toute façon. Voilà, d'une façon physique, effectivement, parce qu'il y a ainsi la possibilité d'abandonner les tracas, l'agitation du monde, la découverte de paysages souvent fabuleux, et puis un effort, et cet effort permet la contemplation.
Et puis faire route ensemble. Le pèlerin peut être très seul, de chercher l'isolement, le silence, etc. Mais parfois, et souvent, ils peuvent se retrouver dans un petit groupe et puis cheminer ensemble.
Traditionnellement, les pèlerinages sont des pèlerinages de groupe. Bon, enfin, je pense surtout qu'il y a le pèlerinage du Moyen-Âge que je connais le mieux. Bon, il est évident qu'il est très dangereux quand même de s'aventurer seul. On peut faire de mauvaises rencontres. Animale ou humaine, et se soutient quand même aussi le moral quand on est plusieurs, on s'aide à trouver le chemin, etc.
Mais dans les Pyrénées, on peut croiser des ours en allant à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui, maintenant. C'est pour ça que le pèlerin avait un bon bâton. Hein.
Ou des sangliers dans les Ardennes, mais bon, en allant à Aubuté.
Voilà, et si vous regardez l'image traditionnelle du pèlerin, ben nous en avons sur la cathédrale de Reims d'ailleurs, les pèlerins d'Emmaüs qui sont figurés de part et d'autre de la Rose, ou un Saint-Jacques d'ailleurs que l'on trouve sur la tour. Bon, là, ils ont deux grands attributs, le chapeau, le galure, qui a un très large bord, qui protège de la pluie et du soleil, et puis le bâton ferré qui est comme le troisième pied du pèlerin. Alors, il y a toujours toute une symbolique sur la Trinité.
Eh oui, bien sûr.
Voilà, mais le bâton est un bâton ferré avec lequel on peut se défendre.
Merci Patrick Demuy d'avoir été avec nous et à très très bientôt sur RCF pour nous parler des pèlerinages, des monastères et de ces lieux assez exceptionnels. Au revoir.
Bonne route.
Et quand la pendule flirte avec 18h30 ce vendredi 7 juillet pour la dernière de l'année en région, comme tous les autres jours de la semaine, il est l'heure du journal régional. inaugurée mi-juin, la nouvelle station-service de Somsou, située dans le sud du département de la Marne, mise sur l'écologie et l'emploi. Avant l'été, l'éducation nationale sensibilise les élèves au harcèlement, principalement via les réseaux sociaux. Reportage.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
La commune de Somsou, située dans le sud de la Marne, a une nouvelle station-service. Inaugurée mi-juin, l'aire des oiseaux migrateurs Somsou, située au bord de l'A26, se veut plus écologique et plus pratique, comme nous l'explique le maire de la commune, Jean-Pierre Colpin.
Cette aire de repos était déjà prévisible, donc bien avant l'incendie, l'aire de repos devait être complètement rénovée. Donc l'incendie n'a fait qu'accentuer les travaux. Aire de repos plus qu'innovante, une nouvelle restauration, une aire extérieure qui peut servir de pique-nique, des parkings avec de nombreuses recharges électriques, du GNL. Le bâtiment est pratiquement en autoconsommation avec du photovoltaïque sur la toiture. Et puis, un point qui m'était très cher, cette aire de repos continue de voir le nom de la commune de Somsou, puisqu'au départ, ça ne devait être que l'aire des oiseaux migrateurs sans la commune de Somsou d'afficher. Aujourd'hui, c'est bien notifié aire des oiseaux migrateurs Somsou.
Gérée par l'entreprise Shell avec la SANEF, cette nouvelle station-service mise également sur la partie emploi. Jean-Pierre Colpin.
On a travaillé main dans la main sur les emplois. La commune de Somsou a prêté ses locaux pour former, accompagner les jeunes qui étaient en recherche d'emploi. On a quand même 4 emplois, donc 4 personnes de Somsou qui ont signé Lico Presto un CDI. Au niveau national, c'est la 4e station aire de repos la plus fréquentée, donc ce qui est quand même pas négligeable. C'est vraiment très convivial.
Des propos recueillis par Christopher Fausten pour RCF Cœur de Champagne, proche du lac du Der, deuxième destination touristique de la Marne et site de référence pour l'ornithologie. L'aire de Somsou est la seule du réseau SANEF à être présente sur l'A26 Sud, une voie de passage importante pour la clientèle étrangère qui rejoint le sud de la France en contournant Paris. Accessible également par la RN4, elle accueille près de 500 000 clients par an. Avec une offre globale d'énergie, elle a mobilisé un investissement de 20 millions d'euros. Avant de développer l'autre sujet, j'allais dire, Luca, vous êtes un utilisateur averti des réseaux sociaux.
Il y a pire que moi, on va dire.
Vous faites quand même attention, avec une démarche bienveillante, s'il y a des commentaires des fois qui sont un peu dérangeants, etc., à les signaler, ce genre de choses.
Ah bah moi c'est simple, si je me balade sur Twitter et que je vois trop de commentaires négatifs, ça me rend malade et je quitte directement.
Ok, et vous Raphaël, vous êtes un petit peu sur les réseaux sociaux malgré votre jeune âge ?
Non, pas encore, mes parents ils essayent de me limiter, peut-être que d'ici 1 ou 2 ans j'y serai, mais j'y ferai très attention.
Eh bien vous êtes pour l'instant épargné par tout ça et vos parents font bien, vous vont l'entendre à l'intérieur de ce reportage. Vous le savez, l'année scolaire se termine, les vacances commencent, mais dans l'éducation nationale on ne lâche rien jusqu'au bout. Nous à RCF à Sardaigne, on accueille régulièrement des stagiaires, 2 sont avec nous ce soir, et on se tourne désormais vers un reportage réalisé par Tesnim Bentahar autour de podcasts en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale diffusée dans des classes de 6e afin de faire de la prévention face aux réseaux sociaux et lutter contre le harcèlement scolaire.
Vendredi 9 juin a eu lieu une session prévention des risques liés aux réseaux sociaux et à la lutte contre le harcèlement scolaire à travers des podcasts au collège François Legros en présence du recteur de l'Académie de Reims Olivier Brandouy, le procureur de la République Mathieu Bourrette et de Claude Roiron-Lemaire, haute fonctionnaire à l'égalité filles-garçons au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Isabelle Camba, professeure principale et d'anglais de 6e, au micro de RCF à propos des podcasts.
Tous les établissements ont reçu un message pour nous informer de la création de ces podcasts pour aider à présenter la lutte contre le harcèlement d'un point de vue différent. Nous les avons reçus et ensuite, moi, je les ai exploités en heure de vie de classe, les élèves.
Elle évoque la forme des podcasts et l'enthousiasme des élèves.
L'approche était différente, ce qui déjà les a intéressés. La forme du podcast, on leur raconte une histoire. Le fait que ce soit une magistrate, donc ça donne de la véracité, le côté plus réel. Ils ont toujours été très enthousiastes à chaque fois qu'on reprenait l'étude du podcast.
Ces podcasts sont aussi un véritable outil pédagogique au micro de RCF, le procureur de la République, Mathieu Bourrette.
C'est un travail collaboratif entre l'éducation nationale et le parquet de Reims. Le recteur l'a porté. Nous avons aujourd'hui la haute fonctionnaire à l'égalité filles-garçons qui vient montrer tout l'attachement de l'éducation nationale sur ce projet. Il est donc d'abord à disposition des enseignants puisque c'est un outil pédagogique qui a été fabriqué pas seulement pour raconter des histoires de harcèlement et de danger des réseaux sociaux, mais aussi être un outil pour les enseignants avec des glossaires, des informations qui leur permettent de pouvoir échanger avec les élèves dans leur classe.
Au-delà de la lutte contre le harcèlement scolaire, ces podcasts permettent de mettre en avant le bon usage des réseaux sociaux, le recteur de l'Académie de Reims, Olivier Brandoui.
On travaille à tout ce qui peut, à un moment donné, guider l'expression. Le respect, la dignité, l'égalité, enfin les valeurs de la République, qui, elles, sont tellement générales, mais tellement précises également, qu'elles vont complètement modifier le comportement si elles sont bien passées. C'est là-dessus qu'on travaille, on travaille sur la prévention. Mais en fait, l'interaction avec les réseaux sociaux en elle-même, on peut l'aborder, mais on va l'aborder dans le cadre vraiment de la démarche citoyenne, de la démarche de responsabilité à laquelle on forme chacun de nos jeunes futurs citoyens.
Le tout au micro de RCF Reims-Ardennes. Merci Tesnim Bentar. Avant de refermer ce journal, on passe à la météo du week-end avec Raphaël Feillot, stagiaire à la rédaction. Bonsoir Raphaël, à quoi les auditeurs de RCF doivent s'attendre comme tendance pour ce week-end ?
Eh bien tout d'abord, samedi, la matinée sera à nouveau ensoleillée. La température ira de 19 degrés à Charleville-Mézières jusqu'à 22 degrés à Saint-Dizier. Dans l'après-midi, quelques nuages apparaîtront, mais le soleil sera toujours dominant. On mesurera environ 30 degrés sur tout le territoire. Dans la soirée, quelques averses apparaîtront à Épernay ou encore Rethel, mais rien de très conséquent. Nous fêterons ce samedi les Thibauts. Dimanche matin sera toujours aussi chaud et ensoleillé, avec par exemple 20 degrés à Reims ou encore 3, mais l'après-midi et la soirée seront très orageux. On constatera également de la pluie à Charleville-Mézières et en Haute-Marne. La température voguera autour des 25 degrés et ira jusqu'à 28 degrés comme à Langres. En ce dimanche, les Amandines seront à la fête. Bonne fin de soirée sur les antennes des RCF.
Merci Raphaël, bonne soirée à vous. On voulait aussi vous remercier pour votre application. Une courte semaine, mais semaine quand même où vous avez été très motivé, où vous avez pu faire de très belles choses. Raphaël, c'est déjà la deuxième fois que vous venez à RCF Reims-Ardennes. On dit jamais 203.
Bah oui, pourquoi pas pour une troisième.
Allez, on espère vous retrouver très prochainement Raphaël. Et puis cette fois, on vous souhaite un bel été, de bonnes vacances. C'est aussi important de se détendre. Vous allez peut-être partir avec la famille, les copains un petit peu.
Oui, normalement, je devrais partir avec ma famille les deux premières semaines d'août.
Bon, bah ça annonce un programme plutôt sympa. À très bientôt, Raphaël. Bel été.
À bientôt, merci.
Et vous, Luca, on en profite. Vous êtes encore avec nous la semaine prochaine sur les programmes locaux de RCF Reims-Ardennes, mais des vacances se profilent quand même prochainement.
Ah bah des vacances très rapidement même, puisque je pars début août en Égypte.
Ça va être un beau voyage également. On aura l'occasion d'en reparler. Tiens, vous nous donnez quelques idées. Vous nous offrirez des destinations touristiques aux auditeurs de RCF Reims-Ardennes la semaine prochaine. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Mais on ne va pas prendre la destination de l'Égypte tout de suite. Pour l'instant, on va rester en local pour la quatrième année consécutive. L'Office de tourisme du lac du Der et ses prestataires proposent en juillet et en août des balades thématiques uniques et accessibles à tous. L'objectif est de séduire les touristes et les locaux afin de les inviter à s'amuser tout au long de l'été sur la destination. Zoom sur une partie du programme avec Méline Tramontana, chargée de promotion au lac du Der en Champagne, qui est en ligne avec Christopher Fausten.
Des animations, beaucoup d'animations pendant cette période estivale autour du lac du Der. Je dis bien autour parce qu'il n'y a pas qu'au lac du Der. On va s'intéresser également du côté de la cité Bragarde à Saint-Dizier, mais aussi dans le pays Vitria du côté de Vitry-le-François. Mais dans un premier temps, on va rester dans le secteur du lac du Der, Méline, avec ce marché nocturne qui arrive à grands pas du côté de Giffaumont-Champaubert.
Oui, tout à fait. Les marchés nocturnes auront lieu tous les vendredis du 7 juillet au 25 août de 17h à 22h sur la station nautique de Giffaumont-Champaubert. C'est un événement qui réunit plus de 40 producteurs. Tous les produits sont faits dans la région. Ce sont uniquement des producteurs locaux et vous trouverez toutes sortes de produits, que ce soit cosmétiques naturels, produits de dégustation, dégustations, également donc accessoires de mode, jouets pour enfants également, objets de puériculture. Il y en a vraiment pour tous les goûts.
Alors, niveau dégustation, moi je suis partant, on ira, c'est pas de souci, Méline. Alors, le lac du Der, on retrouve beaucoup de choses, hein. On a de quoi se baigner, on a de quoi se restaurer, on a de quoi avoir des activités, beaucoup d'activités, mais aussi le fameux spectacle Légende du Der qui aura lieu cet été.
Oui, tout à fait. Les Légendes du Der, ça commence le 12 juillet et ça se termine le 28 août. Les spectacles auront lieu presque tous les soirs, donc le mercredi. Du mercredi au dimanche à 21h et à partir du 25 juillet jusqu'au 15 août, ça aura également lieu, pardon, le mardi. Donc du 25 juillet au 15 août, du mardi au dimanche. C'est un spectacle qui a eu lieu l'année dernière et qui est de retour cette année, qui met vraiment l'accent sur l'humour, sur les cascades équestres, les effets pyrotechniques et les combats. C'est un spectacle dans une ambiance vraiment médiévale et humoristique. Et ça plaît beaucoup aux familles, aux petits comme aux grands.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça plaît à toute la famille, donc
exactement.
À ne pas découvrir donc du côté du lac du Der. On quitte un petit peu cette zone, on va aller du côté de Vitry-le-François parce qu'il se passe des choses, hein. Il y a aussi le côté plage devant la collégiale Notre-Dame de l'Assomption. Justement, parlant de collégiale, Méline Tramontana, on a toujours cette visite de la collégiale tout au long de l'été.
Oui, tout à fait. Donc, vous avez notamment la possibilité de visiter la tour sud de la collégiale le mardi 25 juillet à 14h30. Donc, c'est également sur réservation, mais c'est quand même quelque chose d'assez unique qui a lieu dans l'année. Il faut savoir que cette collégiale fête ses 125 ans cette année, donc ce n'est pas rien. Et ces balades sont également agrémentées au cours de l'été de balades urbaines, cette fois-ci pour découvrir Vitry-le-François au fil des rues. Et la prochaine se situe le 11 juillet à 14h30.
Autre rendez-vous à ne pas manquer du côté du Pivitria, c'est la fameuse balade urbaine aussi, Méline.
Oui, c'est ça. C'est une balade en fait qui est commentée au fil des rues de Vitry-le-François pour découvrir vraiment l'histoire de cette ville, mais aussi son patrimoine, car il est vrai que dans des petites villes comme Vitry-le-François, on a tendance à y vivre, à y passer, mais on s'arrête rarement sur le patrimoine et il y a plein de petites choses à découvrir sur cette ville.
Alors on quitte le pays Vitria, Méline Tramontana, je rappelle, chargée de promotion au lac du Der avec nous en ligne sur RCF. On va repartir un petit peu plus dans le sud, si je peux dire, du côté de la Haute-Marne, du côté de la cité Bragarde, avec la visite apéro du côté de Saint-Dizier.
Oui. Donc la visite apéro, c'est une balade commentée au fil des rues à la découverte de l'ancienne place forte royale. Vous découvrirez également tout le patrimoine métallurgique qui est vraiment caractéristique de la Haute-Marne. Et vous trouverez également des fontes d'art, notamment des pièces d'Hector Guimard, qui est vraiment l'un des sculpteurs emblématiques de la fonte d'art au 19e siècle. Et cette visite est suivie d'une dégustation des produits du terroir.
Oh,
donc c'est également accessible à tous, hein. Même pour les petits, il y a de quoi déguster, hein.
Voilà, tout le monde peut profiter.
Exactement.
Merci beaucoup Méline Tramontana d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui en ligne sur RCF pour nous présenter toute cette palette d'animation, de balades, de dégustations, d'animations autour du lac du Der. De quoi passer un bel été en famille.
Merci
ou entre amis. Merci beaucoup Méline Tramontana.
Merci à vous.
Je rappelle, chargée de promotion au lac du Der. À très bientôt et bel été à vous.
À très bientôt, bel été.
Merci Méline Tramontana et Christopher. Bel été à vous deux évidemment, bel été également à tous nos auditeurs. Dans quelques instants, une nouvelle rencontre, un nouveau portrait sur RCF.
Le 18-19 sur RCF.
Avec nous par téléphone, nous sommes avec Séverine Couvreur de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Séverine Couvreur, bonjour.
Bonjour.
Et je n'ai pas spoilé l'information, mais c'est vrai que depuis quelques heures maintenant, vous êtes la nouvelle présidente de cette mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Vous succédez à Pierre-Emmanuel Tétinger avant même d'entrer dans le vif du sujet, Séverine Couvreur. Félicitations pour ce très beau poste.
Merci beaucoup. Écoutez, passer après Pierre-Emmanuel, c'est à la fois un honneur et à la fois ça oblige beaucoup. Il a vraiment bien installé la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne dans le paysage des associations qui comptent pour préserver notre territoire. Et ben maintenant, il va falloir continuer tout ce qu'il a su construire avec une magnifique équipe autour de lui.
Alors c'est vrai que vous-même, ça fait déjà un moment en tout cas que vous êtes engagé dans cette mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Vous étiez d'ailleurs vice-présidente, j'allais dire jusqu'à aujourd'hui. C'est donc finalement une continuité naturelle de cet engagement que vous aviez déjà pris auparavant finalement.
Oui, oui, tout à fait. En cela, j'allais dire, c'est vraiment agréable et relativement facile de prendre la suite de Pierre-Emmanuel parce que, j'allais dire, on m'a laissé monter en puissance au fur et à mesure des années. Effectivement, quand Pierre-Emmanuel m'a demandé de prendre la vice-présidence, ça m'a permis de toucher à des dossiers plus en profondeur et de m'approprier certaines thématiques, puisqu'il avait notamment souhaité que je m'approprie la thématique du changement climatique et de la biodiversité. Mais Pierre-Emmanuel a su vraiment faire sa transmission en douceur. Sincèrement, cette montée en puissance, elle s'est faite grâce à toute l'équipe et grâce à Pierre-Emmanuel qui nous a tous guidés là-dessus en disant qu'il fallait réussir cette transmission, réussir cette passation et pouvoir poursuivre les dossiers. C'est ça qui est toujours très important dans les associations, c'est pouvoir avoir une continuité, ne pas déstabiliser parce qu'on est en contact au sein de la mission avec la filière Champagne, avec les collectivités locales, avec les élus, avec un certain nombre d'autres institutions qui œuvrent sur le territoire et il ne faut pas perturber tout le travail qui a déjà été mis en place de construction des relations. Le fait que je sois déjà dans la structure et que je connaisse déjà pas mal d'interlocuteurs, ça va permettre de faire une transition en douceur.
Alors c'est vrai, Séverine Couvreur, avant d'évoquer peut-être comment vous, en tant que présidente, vous voyez la suite pour la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, parlez un petit peu de vous, de votre profil. C'est vrai que dans le milieu viticole, vous êtes un visage connu de la Champagne, mais peut-être pour les auditeurs lambda qui ne s'intéressent pas spécialement à l'activité viticole, si l'on parle de votre profil, vous êtes exploitante viticole sur la commune de Rilly-la-Montagne et de Courville notamment, je crois.
Oui, c'est ça, c'est nos deux communes de cœur, on va dire. Sur Rilly-la-Montagne, avec mon mari, nous exploitons 4 hectares. Et puis sur la commune de Courville, nous avons la chance d'avoir 3 hectares d'un seul tenant, une seule parcelle. Vallée de l'Arve, qui est souvent peu connue dans l'appellation Champagne, mais qui a une histoire vraiment très très intéressante, avec notamment au 11e et 12e siècle, une importance très forte des abbayes sur ce territoire et qui ont fait un territoire relativement préservé en termes d'architecture, avec des jolies petites églises romanes et tout ça. Donc on est très attaché aussi à ce terroir de Courville.
Alors pour évoquer maintenant la nouvelle casquette que vous prenez aujourd'hui, hein, celle de présidente, même si vous nous avez déjà donné quelques éléments il y a quelques instants maintenant, Séverine Couvreur, en tant que présidente de cette mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, comment vous vous projetez sur à la fois le court, moyen, long terme? Parce qu'on sait que cette mission, c'est plusieurs petites missions, j'allais dire à la fois au quotidien, mais aussi avec une vision sur l'avenir.
Exactement, bah, vous avez tout dit. Alors déjà, je me suis fait effectivement un programme court, moyen et long terme dont je vais discuter notamment la semaine prochaine avec la filière Champagne, parce que vous savez qu'on est une émanation, on est une volonté en fait. On est issu de la volonté de la filière Champagne d'avoir cette inscription et donc ensuite d'avoir l'association qui puisse gérer cette inscription. Et donc effectivement, dans ma présentation, je me place dans le court, le moyen et le long terme et je me place aussi sur 3 échelles différentes. L'échelle locale, l'échelle nationale et l'échelle internationale. Donc ces 3 aspects à chaque fois sont très importants. Sur le court terme, eh ben, c'est bien sûr continuer, comme je vous le disais effectivement tout à l'heure, être dans la continuité, poursuivre avec tous les acteurs locaux avec lesquels on a l'habitude de travailler, poursuivre notre action. Donc des actions aussi concrètes que gérer les dossiers d'implantation d'énergie renouvelable. Vous savez qu'on s'est beaucoup positionné sur tout ça et c'est un sujet important pour nous parce qu'il ne s'agit pas d'aller à l'encontre des énergies renouvelables, bien au contraire. Hein, on est tous conscients du changement climatique et de l'importance de l'implantation de ces énergies. Mais en même temps, nous avons le devoir de protéger cette inscription et donc nous avons le devoir à court terme de poursuivre toute l'action qu'on mène avec l'État, avec ses services et avec les élus locaux pour veiller à ce que tout ça cohabite le mieux possible, on va dire. Après, dans le court terme toujours, c'est toutes nos actions d'embellissement, de continuer à soutenir les maires, à soutenir les maisons de Champagne, à soutenir les vignerons qui chaque jour embellissent ce territoire. Il faut quand même avouer qu'on a la chance d'avoir un certain nombre aujourd'hui de mises en beauté, de mise en valeur de ce territoire et donc continuer de faire rayonner leurs initiatives, qu'elles soient en termes d'ailleurs d'embellissement, j'allais dire purement bâti, mais également d'embellissement en termes de biodiversité, avec continuer à poursuivre avec la filière Champagne et avec les élus locaux tout ce qui est rénovation de cette biodiversité en accentuant la nécessité de planter des haies, de planter des vergers, d'essayer d'aller vers une restauration de cette biodiversité. Et c'est déjà bien en cours, mais il va falloir qu'on poursuive les actions. Donc voilà, je vous ai donné 2 exemples, mais ça, c'est des actions court terme qui sont déjà en cours, mais qu'il faut continuer. Après, sur le moyen terme, on a les 10 ans de l'inscription à préparer, et c'est dès maintenant, et ces 10 ans s'inscrivent en plus en parallèle avec la réécriture du plan de gestion de notre inscription. Ce plan de gestion, pour faire simple, c'est un peu notre feuille de route, on va dire, pour les 10 prochaines années. Et cette feuille de route, eh bien, nous sommes en train de l'écrire avec notamment les acteurs locaux et tous nos partenaires locaux et nationaux. Et donc, il y a un vrai enjeu à écrire cette feuille de route et à créer à côté de cette feuille de route un très bel événement pour fêter nos 10 ans et rappeler aux habitants, et vous parlez de tous les habitants et pas seulement la filière vitivinicole, vous avez raison de le dire, tous les habitants sont concernés et doivent s'engager autour de cette inscription pour la protéger. C'est un territoire qui a été inscrit, c'est un paysage culturel et donc on est tous concernés par ce paysage. Donc ça, c'est le court terme et j'allais dire que c'est encore très local. Et sur le long terme, là, il y a des aspects à la fois nationaux et locaux. La mission a eu la chance, par tous les travaux qu'elle a menés ces dernières années, aussi bien justement sur l'implantation des énergies renouvelables que sur l'embellissement et tout ça, d'être reconnue au niveau national et de prendre une place de plus en plus importante sur notamment les questions du changement climatique et de ses impacts sur nos paysages culturels. Et là, on continue à installer la légitimité de la mission en tant qu'exemple ou référent au niveau national auprès de nos ministères de tutelle que sont la culture et la transition écologique, qu'on puisse continuer d'être écouté, entendu et pouvoir aider aussi et partager surtout, parce qu'ils peuvent nous aider aussi en retour, partager avec d'autres sites inscrits tout ce que nous vivons sur notre territoire et qui est vécu par d'autres. Donc ça, c'est toujours important, le partage. Et enfin, je terminerai sur le niveau international sur le long terme. C'est pourquoi pas, et ça c'est un rêve, mais s'il se réalise, ça serait merveilleux, c'est pouvoir travailler avec l'Université de Reims sur la chaire UNESCO. En fait, il existe une chaire UNESCO, mais c'est une chaire itinérante qui s'implante quand il y a des projets de recherche importants. La Bourgogne, au moment de son inscription le 4 juillet 2015, avait eu cette chaire. Eh bien, nous aimerions bien l'accueillir en Champagne avec l'université. Donc ça va être aussi un enjeu fort parce qu'il va falloir s'associer au niveau international avec d'autres sites viticoles inscrits au patrimoine mondial et mener une réflexion globale de recherche. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses déjà et j'espère qu'on arrivera à poser tout ça.
Effectivement, ça fait pas mal d'éléments. Séverine Couvreur, juste avant de vous laisser filer, vous le disiez, Pierre-Emmanuel Détagé a été un guide pour vous et pour toute cette mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Aujourd'hui, c'est vous qui en prenez la présidence. Quelque part, c'est vous qui prenez le bâton de pèlerin et qui devenez la guide de toute une équipe. Ça va être une nouvelle mission aussi à assumer pour vous.
Et oui, c'est un vrai défi, un vrai challenge. Vous savez, la mission, c'est une association où Pierre-Emmanuel a mis beaucoup de cœur et de chaleur humaine dedans. C'est un endroit où on aime bien venir et moi, j'aimerais vraiment que tous nos bénévoles et tous nos professionnels, on a 3 permanents à la mission qui travaillent, ben, j'aimerais que notre association reste un lieu vraiment où les gens s'épanouissent, ont plaisir à venir, ont plaisir à travailler sur les différents sujets qui nous animent. Et ça, c'est vraiment un défi pour moi, c'est de poursuivre l'œuvre de Pierre-Emmanuel dans ce sens d'humanité et de lieu où il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute, beaucoup de partage. Et c'est ça l'enjeu, parce qu'on ne fait pas avancer un territoire, on ne fait pas avancer ses habitants, on ne fait pas de beaux projets collectifs sans, comme le dirait Pierre-Emmanuel d'ailleurs, sans le cœur. Ou alors si on le fait sans le cœur, et ben très vite ça retombe et puis il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus d'envie. Et donc là, le défi, c'est de maintenir ce cœur au niveau de la mission, de maintenir ces valeurs humaines qui sont très importantes pour nous au sein de la mission.
Merci Séverine Couvreur, nouvelle présidente de la mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, de nous avoir présenté votre regard sur cette mission et à la fois sur cette vision que vous en avez pour cette mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. On vous dit à très bientôt parce qu'on l'a bien compris, il y a du travail, il y aura donc des actualités à relayer.
Tout à fait, très bientôt, au revoir.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
On vous propose désormais un zoom sur l'association marnaise Lourdes Cancer Espérance qui organise en septembre un pèlerinage à Lourdes. Pour nous en parler, Daniel Machet, membre de l'association basée à Suippes, est avec Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne.
Bonjour Daniel Machet.
Bonjour Christopher.
C'est une association qui fait partie d'un réseau national.
Exactement, c'est un réseau national. Beaucoup de départements ont cette association Lourdes Cancer Espérance. Nous, c'est Suippes, il y en a pour la Marne, si vous voulez, à Reims, il y a Reims aussi qui fait partie de l'association et qui est une grosse association. Ils sont plus nombreux que nous.
Ça couvre uniquement le département de la Marne concernant l'association locale?
Pour nous, c'est la Marne avec les villes du sud, vous voyez, Vitry-le-François, Épernay. Et puis Reims sont associés avec les Ardennes.
Alors, tous les ans, un pèlerinage avec un thème différent. Quel est le thème de cette année, Daniel Machèche?
Le thème de cette année est que l'on bâtisse ici une chapelle. C'est la demande de la... Le thème est choisi selon les évangiles ou selon la Vierge Marie. Et là, c'est la demande de la Vierge Marie qui a demandé à Bernadette que l'on bâtisse une chapelle là où elle a découvert la source d'eau miraculeuse. Donc, il a été construit une chapelle et puis en plus, ensuite, il y a eu l'église et puis maintenant, il y a la cathédrale et puis il y a eu à nouveau une grande, grande église qui peut accueillir, je sais pas, plus de 10 000 personnes. Hein. C'est tout le sanctuaire de Lourdes depuis ces années.
Comment s'organise ce prochain pèlerinage? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des pèlerinages à destination des adultes et un pèlerinage à destination des enfants.
Exactement. Les enfants de familles qui sont malades et qui peuvent venir au pèlerinage viennent au pèlerinage. S'ils sont très malades mais qu'ils peuvent quand même se déplacer, ils seront à l'hôpital à l'intérieur du sanctuaire où ils recevront leurs soins, comme les adultes d'ailleurs, hein, ils recevront leurs soins. Et donc les autres enfants, ce sont des enfants de parents malades. À partir de ce moment, il y a des jeunes qui vont s'occuper d'eux toute la semaine, qui vont animer, qui vont leur faire des jeux, qui vont leur faire découvrir la région, enfin qui vont... Et puis ben, les petits malades recevront leurs soins et participeront aussi au pèlerinage en sens où le vendredi soir, la veille du départ, ils organisent avec une animatrice qui est là depuis des années et qui est géniale, pleine de joie et qui organise une fête dans l'église en présence de l'évêque puisque chaque pèlerinage est patronné par un évêque qui change tous les ans et donc qui organise une fête avec les enfants qui le peuvent.
Daniel Maché, pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient participer à ce prochain pèlerinage, comment faire?
Alors, il faut s'inscrire auprès de la déléguée diocésaine, qui est donc Madame Houdard, Chantal Houdard, qui habite Suip, le 06 95 37 86 08. On part de Châlons-en-Champagne jusque la gare Montparnasse en bus. Ensuite, on prend le TGV qui nous emmène directement à Lourdes, où on a 3 heures de TGV, pas plus. Et puis ensuite, on gagne l'hôtel, les bus nous attendent à la gare et on va dans les hôtels retenus où on est pris en pension complète.
Alors tout le monde est invité, nos auditeurs, ce soit de Châlons-en-Champagne, de Suip, de Vitry, de Reims, des Ardennes, tout le monde est...
Tout le monde est invité, plus nombreux on est, mieux c'est. Cette année, on a un petit peu augmenté, on a 3-4 nouvelles personnes, donc on est très contentes.
Vous êtes combien en moyenne?
Là, on va être 32.
32.
Enfin, faut pas être malade pour se sentir avoir besoin de venir, hein. Tous les bénévoles, parce qu'en plus, nous, si vous voulez, on s'occupe aussi des gens un peu plus fragiles qui sont dans notre groupe. On réserve des fauteuils roulants et puis le sanctuaire par rapport à l'hôtel, bon ben c'est un petit peu, c'est pas loin, mais il faut quand même le faire et puis c'est quand même un pèlerinage où toute la semaine on est bien occupé, donc il faut pousser les chariots, il faut quelquefois faut les aider à manger, quelquefois il faut, vous voyez, et les gens qui sont dans le groupe participent, faut vraiment pas qu'ils craignent parce qu'ils seront vraiment bien pris en charge.
Une très belle mobilisation.
Ouais,
merci beaucoup Daniel Maché d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF Retraité, membre de l'association Lourdes Cancer Espérance du côté de Suip. À très bientôt.
Au revoir et merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Merci Daniel Maché, merci Christopher depuis le studio de RCF à Châlons. C'est sur ce témoignage que se termine le 18-19 ce vendredi et pour toute cette saison radiophonique 2022-2023. Un grand merci à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la réalisation de ce magazine régional, à commencer par les bénévoles qui accueillent nos invités, à ceux qui viennent témoigner à l'antenne ou qui participent régulièrement en tant que chroniqueurs. Un grand merci également aux stagiaires que l'on accompagne avec joie, Luca, Raphaël, vous en êtes aujourd'hui témoins. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nous et vous êtes souvent un renfort de poids pour proposer à nos auditeurs toujours plus de diversité, toujours plus de programmes au sein de notre rédaction. Merci aux salariés de toute la chaîne, qu'ils soient techniciens, animateurs, journalistes. On pense à Fabrice Gironet qui est à la réalisation ce soir, à Jawed Saoudic, Thierry Delis, Gérald Gaillet, Christopher Fausten. Il n'est pas salarié, mais un petit peu quand même. Il est toujours très impliqué. Il donne beaucoup de son temps précieux pour la radio. Évidemment, notre rédacteur en chef, Jean-Pierre Benoît, qui porte ce projet de magazine régional avec les équipes de RCF Cœur de Champagne et RCF France-Ardennes. Merci merci à nos invités qui, tout au long de l'année, partagent leurs idées avec bienveillance et sympathie, en pesant le poids de chacun de leurs mots, en donnant le ton juste et adapté à la ligne éditoriale de RCF. Évidemment, un grand merci à vous, vous les auditeurs fidèles au poste depuis votre domicile, depuis votre voiture, ou parfois on reçoit même des photos depuis des endroits insolites sur le globe, puisque vous nous suivez via Internet et aussi, depuis cette année, via le DAB+, le DAB. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Vous le savez, sur RCF, tout le monde est important et mieux que les auditeurs dont votre soutien est évidemment essentiel, ce sont les auditeurs donateurs. Vous êtes les premiers à nous permettre de vivre cette aventure formidable, à nous soutenir et pour ça, on vous en remercie. Votre générosité est sans faille et nous donne la motivation et la joie de vous accompagner au quotidien avec une information de proximité que l'on espère fiable et vérifiée. En tout cas, on vous le garantit de notre point de vue qui, on l'espère, vous plaît, vous questionne, vous bouscule, vous apaise et peut-être réveille en vous bien d'autres sentiments. Et c'est avec le même enthousiasme que l'on vous retrouvera la saison prochaine. Évidemment, vos programmes locaux se poursuivent encore quelques jours sur RCF France-Ardennes, RCF Cœur de Champagne. Mais dès maintenant, à tous les auditeurs en région, au nom de toutes les équipes de RCF, un bel été, prenez soin de vous dans une joie partagée. À partir de lundi, on se retrouve de 17h à 18h dans les magazines locaux, notamment sur RCF France-Ardennes et RCF Cœur de Champagne. Très bel été, prenez soin de vous, bonne soirée. Tout de suite, c'est l'information nationale qui prend le relais.